Bonjour à toutes et à tous, bonjour cher Azad.
Salut Mathéo.
Bienvenue dans ce podcast exceptionnel réalisé par les élèves de la classe de seconde SSP du lycée Émile Pétavin à Mende. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous présenter notre réflexion autour d'un prix prestigieux, le prix Albert Londres.
Attends Mathéo, c'est quoi le prix Albert Londres ?
Pour ceux qui ne le connaissent pas, le prix Albert Londres est un peu comme les Oscars du journalisme francophone. Créé en 1933, il récompense chaque année des journalistes qui, par leur plume ou leur caméra, dénoncent les injustices, éclairent les zones d'ombre et donnent une voix à ceux qui n'en ont pas.
En fait, il célèbre un journalisme engagé et courageux, qui ne recule devant rien pour raconter les vérités les plus dures. C'est bien ça, Mathéo ?
Tout à fait, tu as tout compris, Shahrazade.
Dans cet épisode, nous vous présenterons plusieurs reportages et documentaires marquants qui ont été en lice pour le prix cette année.
Ces récits ne laissent personne indifférent, qu'ils évoquent des drames humains bouleversants, des combats inspirants ou des réalités méconnues.
Et parce qu'il faut toujours un peu de légèreté, on vous promet quelques notes d'espoir au fil des témoignages.
Alors installez-vous confortablement et plongez avec nous dans ces récits captivants.
Lorraine de Fouché, pour Le Monde. Une femme livrée au viol d'au moins 51 hommes par son mari.
Dans cet article poignant, Lorraine de Fouché raconte l'histoire terrifiante de Françoise P., une femme de 50 ans, victime d'une manipulation psychologique et physique au-delà de tout. Pendant plus de 10 ans, son mari Dominique P. l'a livrée à des dizaines d'hommes pour qu'il la viole, tout en dissimulant ses actes derrière le masque d'une vie normale. C'est lors d'une perquisition que les autorités découvrent l'ampleur du crime. Des vidéos, des témoignages et une liste détaillant les noms des 51 hommes impliqués dans ce viol collectif. L'histoire de Françoise P. est bouleversante, mais elle fait aussi ressortir une forme de courage incroyable. Après des années d'enfer, elle a trouvé la force de parler, de briser le silence et de dénoncer ce qui lui avait été imposé.
Cet article nous a laissé sans voix. La violence subie par Françoise P. nous a profondément choqués. Mais ce qui nous a aussi marqués, c'est le silence qui a entouré son histoire pendant des années. Comment une personne peut-elle vivre dans de telles conditions, sans même en être pleinement consciente ? Pour nous, jeunes adultes et futurs professionnels de santé, cet article a une prise de conscience importante. Il nous a montré à quel point il est crucial de repérer les signes de maltraitance et de violence dans le comportement et les paroles des victimes. À travers cette histoire, nous avons compris que chaque personne qui subit ce genre d'abus a besoin de comprendre qu'elle peut être écoutée et soutenue, qu'elle n'est pas la seule. Cela nous rappelle aussi l'importance de la solidarité et de l'empathie, car chaque voix compte et chaque histoire mérite d'être entendue. Pour nous, cet article est un appel à la vigilance, à l'action et à la prise de responsabilité collective.
L'affaire Françoise P. a également été marquée par une médiatisation intense, notamment autour de la principale victime, Gisèle Pellicot, de son vrai nom. Celle-ci a vu son nom exposé publiquement et sa personnalité mise en lumière, jusqu'à une forme de starification durant le procès. Ce phénomène a ajouté une dimension troublante à un drame déjà complexe, soulevant des questions sur les limites entre justice et spectacle.
Maxime Priou et Arthur Ressiguier pour Arte, Brésil, le clown de Cracolandia. Le documentaire de Maxime Priou et Arthur Ressiguier nous plonge dans l'univers de Cracolandia, un quartier mythique et tragique de Sao Paulo, au Brésil. Ce lieu est devenu le symbole de la dévastation causée par le crack, une drogue qui ravage les vies des habitants et plonge le quartier dans une spirale de souffrance. Mais au milieu de cette misère, un homme fait preuve d'une empathie incroyable. Le psychiatre Flavio Falcone. Pour aller à la rencontre de ces personnes, souvent invisibles et rejetées, il a eu l'idée de se déguiser en clown. Flavio explique que le clown, par ses échecs et ses maladresses, incarne l'espoir.
Il représente ceux qui, malgré leur lutte et leur défaite, continuent à se relever. Dans ce quartier où tout semble perdu, ils offrent aux habitants un peu de chaleur humaine, un espace d'écoute, mais aussi une aide concrète, les logeant, en les soignant et en leur redonnant une place dans la société. Ce documentaire nous a touchés profondément. Flavio Falcone incarne l'espoir et la solidarité et il nous montre que même dans les pires situations, un petit geste peut changer une vie.
En nous immergeant dans la réalité de Cracolandia, nous avons pris conscience de la force que l'empathie peut avoir pour créer du lien. Cela nous a aussi fait réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour emporter un peu de lumière dans les ténèbres. En tant que futur professionnel, cet article nous rappelle qu'il est essentiel de comprendre les histoires des personnes que nous aidons. Chacun porte un vécu et pour les aider, il faut savoir écouter, comprendre et offrir des solutions adaptées. Ce documentaire nous inspire à toujours garder espoir, même face à des situations difficiles, et à ne jamais perdre de vue l'importance de l'humanité et de la dignité dans notre travail.
Article de Julien Gester pour Libération. Philadelphie face au ravage de la xylazine. La xylazine, surnommée la drogue zombie, est une véritable tragédie humaine dans les rues de Philadelphie et particulièrement dans le quartier de Kensington. Mélangée à la fentanyl, une substance 50 fois plus puissante que l'héroïne, elle provoque des ravages inédits, avec des effets sédatifs extrêmes et des lésions cutanées qui transforment les corps. Elle pousse des milliers de personnes à s'injecter dans les endroits insoupçonnés, comme le cou, lorsque les veines deviennent inutilisables.
Chaque année, plus de 100 000 personnes succombent à une overdose, un chiffre qui dépasse les morts liées aux armes à feu et aux accidents de la route combinés. Philadelphie a atteint un triste sommet en 2021 avec des chiffres records. Cette réalité semble encore éloignée de l'Europe, bien que des cas de xylazine aient déjà été repérés en France. Pour nous, ce reportage est un électrochoc. Il nous rappelle que derrière les statistiques glaçantes, il y a des vies brisées, des familles en souffrance et une société qui cherche encore des solutions. En tant qu'adolescents, nous avons pris conscience que ces drames peuvent toucher n'importe qui, indépendamment du milieu social ou de l'âge. Cela nous incite à être attentifs aux signes de détresse chez les autres et à promouvoir la prévention autour de nous.
En tant que futur professionnel du soin, ce reportage nous pousse à ne jamais juger une personne en situation d'addiction, mais à l'écouter et à l'accompagner avec respect. Nous avons appris qu'aider les autres ne consiste pas seulement à traiter les symptômes physiques, mais aussi à comprendre leur histoire et leur souffrance. Ce travail demande du temps, de la patience et une empathie sincère. Ce reportage, bien que poignant, nous donne également une motivation supplémentaire, celle de faire la différence, à notre échelle, dans la vie de ceux qui en ont le plus besoin.
Antoine Védeil et Germaine Basselet pour Arte, Philippines, les petits forçats de l'or. L'article d'Antoine Védeil et Germaine Basselet nous plonge dans la réalité effrayante des mines d'or des Philippines, où des milliers d'enfants, souvent dès l'âge de 10 ans, sont contraints de travailler dans des conditions dangereuses et inhumaines. Ces enfants, plongés dans des eaux profondes et visqueuses, risquent leur vie chaque jour pour amasser des sacs de boue dans l'espoir de découvrir une pépite d'or. Mais derrière cette quête du précieux métal, c'est la réalité d'une pauvreté extrême qui les pousse à travailler dans ces mines. Les familles, dans l'espoir d'améliorer leurs conditions de vie, envoient leurs enfants plonger à des profondeurs dangereuses où la boue peut les engloutir, les rendant vulnérables à des accidents mortels.
Ato, âgé de 13 ans, est l'un de ses enfants. Chaque jour, il plonge sous l'eau, sous l'œil de son père, dans l'espoir de gagner quelques centimes pour survivre. Cet article nous fait prendre conscience de la réalité tragique des enfants travailleurs dans les pays pauvres. Cela montre à quel point l'or, ce métal précieux, est une malédiction pour ces enfants, qui, au lieu de pouvoir aller à l'école et de rêver d'un avenir meilleur, sont plongés dans un cycle infernal de pauvreté et de travail forcé. Cet article nous a laissé sans voix. Il est difficile de concevoir qu'en 2025, des enfants soient encore contraints de travailler dans de telles conditions. Ce qu'ils vivent est une injustice profonde et une violation de leurs droits les plus fondamentaux.
En lisant cet article, nous avons pris conscience de la chance que nous avons, nous qui pouvons aller à l'école et profiter d'une enfance protégée. Nous nous sentons responsables de ces inégalités et avons l'impression qu'il est de notre devoir d'alerter ces injustices. Cet article nous a fait comprendre qu'il ne faut jamais oublier les personnes qui souffrent dans l'ombre et que nous devons faire entendre leur voix. En tant que futurs professionnels de la santé, de l'éducation ou dans d'autres domaines, cet article nous incite à nous battre pour un monde plus juste, où chaque enfant a la possibilité de vivre son enfance, de rêver, d'apprendre et de s'épanouir.
Arthur Saradin pour Libération. Dans le sud du Liban, on se prépare seul à la guerre. Ce reportage poignant nous entraîne dans un quotidien où la guerre n'est jamais loin. Depuis le conflit de 2006, marqué par des affrontements entre Israël et le Hezbollah, la région n'a jamais retrouvé une paix durable. Les habitants comme Bassam, un villageois d'Aït el-Chab, vivent dans l'ombre de cette menace constante. En 2006, leur village a été ravagé par les bombardements et 25 000 habitants ont dû fuir. Privés d'eau, de nourriture et de soins, ils se sont retrouvés dans une lutte pour leur survie. Aujourd'hui, beaucoup redoutent une répétition de ce cauchemar, d'autant que des frappes récentes impliquant notamment l'utilisation des phosphores blancs ont déjà causé des ravages près de leurs habitations.
Bassam, qui a vécu les horreurs de 2006, se prépare à affronter une nouvelle guerre. Avec ses voisins, ils ont même construit un hôpital de fortune pour pallier l'absence totale de soutien de l'État. Cet hôpital dispose de matériel minimal pour soigner les blessés éventuels, car les infrastructures de santé sont inaccessibles depuis des années. Mais pour Bassam et beaucoup d'autres, fuir n'est pas une option. Les moyens financiers font défaut et partir reviendrait à abandonner tout ce qu'ils ont construit malgré les destructions. Alors, ils restent résignés, mais déterminés à se défendre, à se préparer, à survivre. Lire cet article a été un choc, nous réalisons à quel point notre quotidien est éloigné de ces réalités. Ici, au Liban, des familles entières vivent avec la guerre comme une ombre permanente. Leur résilience force l'admiration, ils construisent, s'entraident et trouvent la force de continuer là où beaucoup renonceraient.
Pour nous, en tant que jeunes lycéens, cet article nous pousse à réfléchir. On se rend compte que la paix que nous tenons pour acquise est un luxe. Imaginez devoir fuir son foyer ou construire un hôpital avec ses propres moyens. Pour survivre semble presque irréel. Pourtant, c'est leur quotidien. En tant que futurs professionnels, que ce soit dans la santé ou le social, cet article nous apprend beaucoup sur l'importance de l'entraide dans des contextes difficiles. Bassam et ses voisins nous montrent que même dans les pires situations, la solidarité et le courage permettent de tenir. Cela nous donne envie de nous engager encore plus pour aider ceux qui en ont besoin, que ce soit ici ou ailleurs. En conclusion, cet article nous laisse avec un sentiment d'admiration pour ces villageois et une profonde gratitude pour la paix dont nous bénéficions. Une paix que nous devrions toujours protéger et jamais considérer comme acquise.
Julie Braffman pour Libération. Aux assises des Côtes d'Armor, les trois frères bloqués dans les années 30, le fusil et la ferme familiale.
L'affaire débute le 19 mai 2021.
Dans la campagne bretonne, lorsqu'on découvre le corps sans vie de Claude Renaud, 78 ans.
Dans la vieille ferme familiale où il vivait avec ses deux frères.
Les trois hommes avaient choisi de vivre en autarcie dans une bâtisse délabrée, héritée de leurs parents. Un choix de vie peu commun qui les avait éloignés du monde moderne. Claude, l'aîné, était perçu comme le plus discret et cultivé. Responsable des comptes, il incarnait une certaine stabilité au sein de la fratrie. André, impulsif et porté sur la boisson, s'occupait des vaches et des courses, mais entretenait une rancune tenace envers Claude. Enfin, Alexandre, le cadet, maçon de profession, restait en retrait, ne participant ni aux travaux de la ferme, ni à la gestion familiale. Ce fragile équilibre s'effondre un soir, lors d'une dispute autour de l'héritage. Alexandre aurait refusé de payer sa part pour la succession de sa mère, déclenchant une violente altercation. Les tensions accumulées explosent et quelques semaines plus tard, Alexandre est accusé du meurtre de Claude. Le jeudi 11 août, il est condamné à 12 ans de réclusion criminelle, mettant fin à une tragédie marquée par l'isolement, les rancunes et une profonde fracture familiale.
Cet article nous a bouleversés par sa charge émotionnelle. Il est choquant d'imaginer qu'un frère puisse en arriver à tuer un autre pour une simple question d'argent. Ce drame met en lumière des tensions extrêmes qui peuvent se créer dans des contextes d'isolement et de désespoir. Ce qui nous a également frappé, c'est l'incertitude qui plane sur cette affaire. Au fond, sait-on vraiment qui a tué Claude ? Le doute persiste, ce qui rend l'histoire encore plus troublante. L'article est brillamment écrit avec des descriptions précises qui permettent de visualiser la scène et de mieux comprendre la personnalité de chacun des frères. Les détails, notamment sur leur quotidien et leurs différences, renforcent l'immersion dans cette tragédie.
En tant qu'adolescent, nous trouvons cela émouvant et profondément triste. Voir une fratrie se déchirer ainsi pour une question d'argent montre à quel point les conflits familiaux peuvent être destructeurs. Cela nous pousse à réfléchir à l'importance du dialogue et du pardon dans la relation humaine. Ce drame familial est une véritable leçon de vie. Il nous rappelle qu'il est crucial de ne pas laisser le conflit s'envenimer, que ce soit dans notre propre famille ou à l'avenir. Cet article nous encourage à toujours privilégier la discussion avant que les choses ne prennent des tournures tragiques.
Martin Boudot, Mathilde Coussin et Manon Decoué pour France 5, Amiante, nos écoles malades. Le documentaire plonge dans la problématique dramatique et trop longtemps ignorée de l'amiante, ce matériau toxique autrefois omniprésent dans la construction. Il éclaire ses effets dévastateurs sur la santé humaine, des villages miniers du Kazakhstan jusqu'aux écoles françaises contaminées. Dans un premier temps, il explore la situation alarmante au Kazakhstan, où se trouve la plus grande mine d'amiante du monde, à seulement 5 km d'une ville densément peuplée. Là-bas, l'État minimise les dangers, niant tous les liens entre l'amiante et les cancers pourtant fréquents dans la région. Les journalistes du documentaire, malgré les intimidations, filatures et convocations à la gendarmerie, dévoilent un mépris institutionnel inquiétant.
La deuxième partie s'intéresse aux écoles françaises, où l'amiante demeure omniprésente malgré son interdiction en 1997. Les fibres toxiques menacent directement élèves et enseignants, notamment à Marseille et dans la Manche, où les analyses révèlent que près de la moitié des établissements sont contaminés. La colère et l'angoisse des parents d'élèves et des enseignants témoignent d'une lutte pour obtenir transparence et sécurité. Le documentaire souligne les manquements des autorités françaises, qui jusqu'en 2021 refusaient de publier les résultats de prélèvements réalisés dans les écoles, laissant planer l'inquiétude sur l'avenir des milliers d'enfants.
Ce documentaire nous a profondément marqués en tant que lycéens directement concernés par cette menace invisible, mais bien réelle. Nous avons été choqués par l'indifférence des États face à un problème si grave et par la révélation que certains établissements que nous fréquentons pourraient également être contaminés. C'est un cri d'alerte pour la santé de notre génération et des futurs qui pousse à se demander pourquoi les décideurs tardent à agir pour éradiquer définitivement l'amiante.
Est-ce qu'on a terminé, Mathéo ?
Oui, notre voyage à travers les récits du Prix Albert Londres 2024 s'achève. Nous espérons que ces histoires, aussi dures soient-elles, vous auront donné matière à réfléchir, mais aussi des raisons d'espérer. Pas vrai, cher Azad ?
Carrément, car derrière chaque injustice dénoncée, il y a des gens qui se battent, qui résistent et qui reconstruisent. Et ça, c'est une belle leçon pour nous tous. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.